Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. C'est le 81e épisode, donc l'épisode numéro 80. Nous sommes le 20 janvier 2023 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Steven Leroux.
Bonjour.
Voilà, donc il n'est pas audible. Steven Leroux, qui es-tu ?
Je suis Steven Leroux, CTO à Clever Cloud, Winisdu sur Twitter et vététiste et sportif sur mon temps pas assez libre.
D'accord. Nous avons également un autre personne merveilleux tel que Arnaud Lefebvre.
Bonjour. Moi je travaille à Clever Cloud, je suis développeur et je gère également l'infrastructure au sein de la boîte.
Voilà. Et en fait, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est un épisode un peu particulier, puisqu'en fait, autant Steven et moi, on est de ce côté-là de la table, autant les autres sont de l'autre côté de la table. Et donc, en fait, c'est un épisode en physical, dirons-nous, parce qu'on a même du public. Et donc, nous sommes dans un épisode physical, comme on dit. Et aujourd'hui, nous avons donc une superbe invitée, Nida Léger. Bonjour.
Bonjour.
Le public par applaudissement.
Pour applaudir un invité.
C'est beau, ça résonne.
Donc Nida, qui es-tu ?
Donc je suis Nida, connue sous Twitter sur le compte Nidouille. Donc je suis admin système et réseau. Et multifonction sur mes missions en ESN.
Eh bien, écoute, c'est un plaisir de t'avoir ici ce soir pour cet épisode qui n'a pas du tout été improvisé. C'est programmé depuis des années qu'on fasse cet épisode et on est extrêmement carré sur ce truc. Et comme vous le voyez, c'est vendredi, la semaine a été dure et c'est quand même un message à caractère apéritif aujourd'hui. Bon, sans plus de présentation, je vous propose qu'on prenne les premiers sujets. Cette semaine, dans la vallée, ça vire dégueulassement. Il y a Google qui a refait une charrette de 12 000 personnes. Microsoft, bam, 10 000 personnes. Amazon, bam, 18 000 personnes. Donc en fait, les résultats la dégringolade de la bourse américaine, en fait, a quand même affecté tout le monde et genre tout le monde lâche du lest pour essayer de faire remonter les actions. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas quelle est votre lecture, vous. Mais...
Moi, je trouve que ça commence toujours de la même manière. Ils disent toujours que ils acceptent leurs erreurs, ils assument leurs erreurs, voilà.
Tu veux dire avoir violé la vie privée, ne pas respecter les lois anticoncurrentielles
Peut-être que c'est ce qui est sous-entendu, mais je ne pense pas. Mais c'est marrant, ça commence toujours pareil et après, c'est au revoir quoi.
Ouais, ce qui est très logique américaine, hein, c'est-à-dire que tu vois, j'aime quand tu me touches comme ça. en fait, les boîtes américaines, elles lèvent entre guillemets beaucoup, elles staffent beaucoup et quand la valorisation baisse, elles ont tendance à virer vite. Il se trouve que dans la culture américaine, ils sont vite recrutés, ils peuvent aussi vite se faire virer. Même si ils savent ça, là, en fait, ça se passe à une telle échelle que, mine de rien, les gens ne sont pas si près que ça, en fait. Et Facebook a quand même viré, je crois, 13 000 personnes. Ils sont à Palo Alto. On peut se dire que, massivement, les gens habitaient quand même autour de Palo Alto. Ça représente un tiers de la ville, quoi.
Donc, c'est si petit que ça.
Bah, Palo Alto, tu sais, c'est des villes, mais c'est dans la mégalopole de la vallée.
Okay.
Mais du coup, ça a quand même un impact qui va être majeur sur l'économie locale. Là, Google font la même chose. Alors, 12 000, ça doit être un peu réparti. Mais dans le cas de Google, tu vois, c'est particulier parce que le cours de bourse a un peu baissé. Globalement, la bourse se stabilise un peu côté américaine. Et c'est globalement une correction de marché qu'il y a, mais elle ne s'est pas effondrée, tu vois, en fait. Donc, ils virent aujourd'hui beaucoup de monde. Soit ils craignent un avenir un peu négatif les concernant, soit il y a autre chose, mais où ils profitent peut-être d'une baisse de marché pour écrémer, entre guillemets. Mais pour moi, ça ne s'explique pas uniquement par le cours de bourse pour Google. Hein. Amazon, c'est pareil, tu vois. Amazon, ils ont freeze leur truc, alors qu'en fait, en revenu, ils font record sur record et tout va bien. Mais je pense que l'économie américaine se pose des questions en ce moment.
Ouais, puis après, moi, j'avais vu un graphe sur Twitter, alors j'ai pas regardé la source ou autre. Enfin, j'ai pas vérifié, c'est comme ça. Globalement, il montrait que Microsoft avait, je crois, embauché entre 2021 et 2022, genre 40 000 personnes. Ce qui était beaucoup plus que d'habitude, effectivement. Et là, ils ont licencié donc 10 000, je crois. Ça reste quand même un effectif de plus de 30 000 personnes, quoi, sur un an ou un an et demi, peut-être. Donc, bon.
Ouais, bon, je pense qu'il y a des rushs de temps en temps, et de temps en temps, ils écrèment un peu, mais bon, la logique est un peu bizarre de notre point de vue. Après, il n'y a pas de détails non plus, hein, sur où est-ce qu'ils ont, quel poste ils ont supprimé, etc.
Ça a l'air d'être un peu partout. Ouais.
Moi, ce que je me dis, c'est que la vallée, c'était quand même devenu un peu spécial comme ambiance, avec une grosse concentration d'IT, avec des très hauts salaires, et une sorte de classe moyenne qui devenait assez inexistante, en fait, et qui ne pouvait plus habiter sur place, qui habitait très très loin. Et une classe un peu plus...
Genre dans un autre état, tu
vois. Bah quasi, en fait, arrivé là. Mais quand tu commences à habiter à 2h, 2h30 du truc, et te dire que, bah, en fait, pour aller bosser et faire serveur dans un resto, ça devient un peu compliqué, bah du coup, les gens n'y vont pas ou vont ailleurs. Et du coup, dans la vallée, ils ont du mal à faire venir, en fait, des gens pour l'activité de service. Et globalement, enfin, tu vois, ce qu'ils disent, c'est que tu vas enjamber 3 seringues et 2 SDF pour rentrer dans ta pizzeria avec des pizzas à $50. Quoi. Donc, il y a une sorte de schizophrénie qui s'est installée, et avec une ambiance un peu particulière. Et mine de rien, le fait d'avoir plein de boîtes qui sortent, en fait, de la vallée parce que c'est devenu beaucoup trop cher, ou d'avoir des suppressions massives de jobs, ça peut vouloir dire que ces gens-là vont peut-être aussi déménager, et ça peut recréer une économie un peu plus, on va dire, durable, plus équilibrée, que n'est plus du tout la vallée. Alors, malheureusement pour ceux qui venaient d'acheter là-bas, hein, mais c'est peut-être aussi pour du mieux, quoi. On verra.
La question, c'est est-ce que la vallée, du coup, va être un peu plus concentrée sur elle et moins concentrée sur le fait de nous vendre des trucs, et donc peut-être les champions locaux vont pouvoir tourner. Parce que nous, on a une news aussi à vous faire partager, parce qu'il y a une news clever. Cette semaine, on a lancé un partenariat avec Scaleway, et donc il y a à présent une zone Clever Cloud au-dessus de Scaleway, qui vous permet donc de mieux vous interconnecter avec vos services Scaleway et éventuellement d'utiliser donc le super DC5 de Scaleway. Et donc, si ce partenariat-là avance, ça permettra un jour que Scaleway puisse revendre des services également de Clever dans Scaleway. Donc, le but est de progressivement permettre de fusionner les services. Voilà.
Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Quand on a bossé avec Scaleway là-dessus, on s'est dit qu'on allait aller étape par étape, la première étant qu'on les intègre.
Il y a un autre, c'est le mec qui a installé la zone.
Alors, pour le coup, je l'ai fait avec Manu. On était deux sur le sujet, mais ça s'est bien mis. Hein.
Ouais, merci les gars. Et donc, c'est une première étape, mais c'est vrai que ça va nous permettre, nous, d'intégrer aussi différentes choses, et notamment de pouvoir définir des zones de PRA sur une autre région, ou de pouvoir faire du multi-cloud avec, en bénéficiant aussi de DC5 qui a des atouts. En termes environnementaux et écologiques, mais qui se traduit aussi à la fin par une tarification qui peut être aussi plus intéressante. Si les coûts demain d'énergie ou d'eau ou de je ne sais quoi augmentent beaucoup, ça permet aussi à Scaleway de proposer des offres plutôt concurrentielles, j'imagine, par rapport à la concurrence. Et donc, nous, on se positionne au-dessus de l'infrastructure pour ramener le service sur Scaleway et toute la stack de Clever qu'on va progressivement déployer là-bas. Mais aujourd'hui, vous pouvez déjà déployer toutes les apps et les DB. Et on est en train de monter tous les pipes pour faire tout ce qui est PRA en un clic, etc. Tout ça va arriver prochainement.
Donc, n'hésitez pas à tester, puis faites-nous du feedback si ça vous plaît. On rentre un peu plus hardware, ça vous dit ? Non, toi, t'as une réaction là-dessus, sur quand on fait ce genre de truc ou...
Bah, ça m'intéresse puisque quand je vais chez les clients en mission, c'est toujours intéressant de pouvoir proposer une alternative autre que Azure ou AWS.
Ouais. Et tu vois de plus en plus de demandes là-dessus. Il y a des enjeux de souveraineté ou juste d'alternative ou même de logique de faire, entre guillemets, travailler l'écosystème un peu local.
C'est malheureusement, il y a le diktat du prix et de faire comme font les grands groupes, faut les copier, aller sur le cloud américain.
Mais pourtant c'est plus cher, non ?
Bah oui, mais puis il y a un autre problème, c'est qu'on a des outils comme Power BI. Ouais. Et Power BI n'est plus vendu pour être installé on-premise en entreprise. On est obligé de passer par Office 365 et c'est l'engrenage fatal.
C'est bon.
Voilà. Microsoft et son augmentation justement de part dans le cloud est liée à ces outils qui étaient on-premise, qui passent intégralement dans Office 365 et qui permettent de faire une porte d'entrée ensuite pour Azure.
Et c'est le cas aussi de toutes les stacks de mail, je crois.
Voilà. Oui, ouais. Bah, quasiment plus personne sait gérer de mail en entreprise.
Oui, et puis il y a quand même un léger dossier aussi où les mecs sont quand même en train de faire un bricolage pour qu'à chaque fois que tu gères du mail en dehors de leur petit consortium, c'est l'enfer. Parce que je rappelle que Microsoft, Google et Yahoo s'en renvoient les mails en interne sur un protocole qui est plus standard. Ils ont un petit groupement à eux, tu vois, ils font leur petit bidule entre eux. Et donc, non, il y a clairement une attaque en cours du système de mail qui est assez terrifiante.
Et au final, j'ai plus peur d'Azure, du moins de l'écosystème Microsoft, qui est difficilement détrônable, alors qu'on peut, que ça soit GCP ou AWS, on peut trouver des solutions justement chez Clever, qui peuvent parfaitement faire le boulot. Et il y a aussi un manque de visibilité, de certaines DSI, qui lisent un petit peu trop les livres blancs de certaines grandes associations françaises au niveau informatique.
Donc on a besoin, entre guillemets, de l'aide et du soutien des ESN pour participer à prêcher un peu la bonne parole et participer, on va dire, à l'effort de guerre là-dessus, quoi.
Je pense, oui. Et peut-être aussi mettre un peu plus de crédit pour tester.
Ah, ça c'est pour chez nous.
Ah ouais.
Faut qu'on mette des crédits.
Faut qu'on file des crédits.
C'est ça. Mais t'es pas venu les mains libres, dis-moi.
Non.
Les mains vides, libres aussi. Personne ne l'a entravée. Ah, tu es conscient que personne ne l'a attachée ici.
Heureusement.
On parle un peu plus hardware. T'es venu avec un nouveau jeu que tu viens de recevoir, c'est ça?
Attends. C'est le premier unboxing
de messages à caractère informatique.
De messages à caractère informatique.
Bon. Vas-y. La boîte en carton a déjà été ouverte puisque certains l'ont déjà vu sur Twitter. Donc c'est une carte.
Comment on dit que c'est un vrai unboxing?
On coupe au montage. Hein.
Donc une alimentation, rien d'intéressant.
Ouais.
Et le plus intéressant, c'est
le manuel en chinois.
Voilà. C'est le Vision 5 2, donc qui est une carte de développement basée sur une architecture RISC-V. Donc, il va falloir que j'explique ce que c'est RISC-V tout à l'heure.
Est-ce que tu peux peut-être la montrer plutôt que le packaging, que tout le monde s'excite un peu. Et que du coup, on explique pourquoi RISC-V nous intéresse autant.
Donc, bon, la boîte, c'est une boîte merdique. Ça.
C'est vrai que c'est moins excitant quand on fait de la cosmétique en termes de...
Là, surtout que là, on aurait dû avoir un micro hyper proche. Ah. Comme ça, on aurait fait une version ASMR, tu vois. Enfin, ça aurait été incroyable.
Donc là, ça, c'est la clé Wi-Fi qui est vendue avec le kit. Voilà, qui est dépouillé à souhait.
Ah, parce que du coup, le Wi-Fi n'est pas intégré.
Il n'est pas intégré.
Ce plug, ouais. Okay.
Et la partie la plus intéressante, c'est la carte. Il me semble que David avait utilisé cette carte-là sur une de ses présentations. De messages à caractère informatique.
Ah, il est possible qu'il ait joué avec celle-ci, ouais.
Donc, cette carte-là, donc deux ports Ethernet, 1 gigabit.
Ok. Donc là, ça te permet d'éventuellement la placer dans un modèle.
Faire un routeur.
De routeur, ouais.
C'est bon, il n'est pas intégré.
Ou de firewall.
Oui. Le HDMI. port USB 3, la sortie audio. Comme pour les Raspberry, tous les connecteurs pour utiliser les modules.
Du GPIO, hein. Oui. Ouais.
Donc, plus important, le SOC.
C'est du 40 GPIO, c'est du compatible en plus. Oui.
C'est compatible. Oui. Faut un driver, tu vois.
Non, mais sur la pinoche, toi, si tu veux mettre un petit truc en extension dessus, un shield ou je ne sais quoi, si ça se trouve, ils sont arrangés.
Là où il y a mon doigt, c'est le SPI Flash, donc pas forcément d'intérêt.
Ouais, ok.
Pas d'intérêt. Ça, c'est la puce RAM. Donc la carte existe en 4 et 8 gigas.
Ok.
Donc, ce qui est relativement confortable.
Ouais.
Bon, dépendant de ce que tu veux faire, mais oui.
Moi, c'est une version 8 gigas que j'ai prise. Donc le port SD.
Ouais, pour mettre le disque de boot.
Voilà, mais aussi, surtout. Port NVMe.
Ah, c'est
M2. Ouais.
Allez.
Trop bien. Donc du NVMe, tu peux aller calibrer dessus direct.
Voilà.
Et tu peux booter sur le NVMe ou il est nécessairement slave?
Normalement, tu peux booter.
Ah, nice. Ah, ouais. Non, parce que le fait de passer, le fait d'aller niquer en permanence des cartes SD qui finissent quand même toujours par décéder, parce que pour ceux qui n'ont pas beaucoup joué avec des Raspberry ou des trucs comme ça, tu finis quand même toujours par décéder le satané SD, la satané SD card, et ça finit toujours genre. Et t'essaies toujours au moment où ça ne t'arrange pas et au moment où t'en as pas de backup, tu vois.
Attends, pourquoi? Parce qu'en fait, les SD cards, c'est pas fait pour gérer beaucoup d'écriture et de cycles d'écriture. Or, quand tu as un système d'exploitation dessus, en fait, il va loguer tout ce qui se passe tout le temps, mais du coup, ça génère plein d'écritures cachées, même si on a l'impression qu'on n'en fait pas grand-chose, et ce qui use la SD card et qui fait qu'à un moment donné, elle meurt.
En fait, tu niques les cycles d'écriture d'une SD card, et en plus, ce qui est vraiment débile dans l'opération, c'est que tu niques les cycles d'écriture de vraiment très peu de secteurs sur toute la SD card. Par contre, tu niques la SD card au global. Et c'est pour ça qu'une SD card, c'est vraiment bien à coller dans un appareil photo numérique, si votre appareil photo numérique n'est pas votre téléphone. Mais sorti de ça, c'est vrai que pour mettre un OS, c'est quand même vraiment pas l'extase.
Et sur la carte, il y a aussi, pour mettre une... ces deux petites broches-là, c'est les connecteurs EMC, une mémoire flash.
Ah, top !
C'est-à-dire ?
Le MMC,
ouais. C'est une puce que tu...
Que tu viens
plugger à ce niveau-là,
okay.
Une mémoire flash, et qui est comme pour un SSD, qui est adapté aux lectures-écritures.
D'accord.
En clair, tu as un truc pour jouer avec, qui est la carte SD, mais tu as moyen de faire quelque chose d'un chouïa plus industriel si tu es de bonne humeur.
Voilà, et après, tu as tous les connecteurs, caméra, sortie écran, nécessaires, comme n'importe quel Raspberry Pi. Et le truc très utile en informatique, le bouton reset.
Ah oui. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est à peine plus grand qu'un Raspberry Pi, en fait.
C'est un petit peu plus grand.
Un peu plus grand, ouais.
La carte est un petit peu plus grande. Après, ils ont fait le choix, comme il y a 4 ports USB,
oui.
Une sortie audio, une sortie HDMI et 2 ports RJ45, plus le fait de pouvoir mettre un SSD, c'est un 2280. Donc forcément, il faut que la carte puisse être...
Il faut
qu'elle soit un petit peu plus longue.
Ouais, forcément.
Et en USB, tu as le Wi-Fi plus Bluetooth ou...
Juste Wi-Fi.
Ouais. C'est marrant qu'il n'ait pas intégré ça.
Parce que c'est Wi-Fi pas.
Le Wi-Fi qui se branche en USB, du coup.
Ouais. Bah, tu dois pouvoir en mettre en M2 si tu veux.
Mais... Oui.
Ouais.
Mais après, comme c'est une carte de développement, ils ont dû considérer que c'était
suffisant.
Et du coup, on n'a pas précisé, mais les deux ports réseau, les deux sont gigabit Ethernet.
Lors de la vente, il y avait donc les Early Access qui ont reçu leur carte fin de l'année dernière. Eux ont un port 1100 et un port gigabit. Moi, j'ai pris la version 2 ports gigabit.
Ouais. Oui, ce qui commence à envoyer un peu. Hein.
Et derrière, les puces, c'est du Realtek, ce que j'ai cru comprendre. Donc, c'est.
Wow. Standard.
Pour une carte de développement, c'est largement suffisante. Cette carte-là, elle est compatible avec Fedora, Debian, Ubuntu et OpenSUSE. Mais par contre, là, il va falloir compiler l'OS, au moins pour Debian.
Et par contre, en Alim, tu peux l'alimenter du coup via l'USB-C.
Voilà, qui est ici.
Ça, c'est pas mal.
Et sinon, pour revenir sur la partie purement technique de la puce C5, en termes de les benchmarks qui sont sortis, c'est un petit peu moins puissant qu'un Raspberry 4.
Ouais, mais ça veut dire okay. que les implèmes sur risque commencent quand même à rattraper un peu l'ARM.
Oui.
Et progressivement.
Donc, je vais peut-être expliquer le RISC-V pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est.
Juste, ça coûte combien du coup, ça, à peu près ?
La carte, je l'ai achetée 80 euros.
D'accord, ok.
80 ou 85, je me souviens plus.
Ouais, d'accord, c'est moins de 100 euros.
Mais maintenant, okay. ça coûte plus cher. On les trouve sur AliExpress à 140 euros.
Parce qu'à cause de la pénurie, peut-être un peu comme.
Ouais, et puis je ne sais pas s'ils vont refaire une série.
D'accord, ok.
On verra avec le temps. Et il y aura une alternative qui arrivera dans l'année par PIN 64.
Ok.
Et donc RISC-V. Donc RISC-V, c'est une nouvelle architecture CPU, donc qu'on appelle une ISA.
Non, c'est pas vraiment une nouvelle. En fait, oui. C'est une des plus anciennes.
Non, une des plus récentes.
Ah ouais?
Ouais,
j'avais l'impression que ça existait depuis genre forever.
Le RISC-V, l'architecture date de 2010 et c'était créé à Berkeley.
Ah, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus vieux, moi.
Après, c'est la logique RISC qui est plus vieille.
Ah oui, c'est ça.
Oui.
C'est traître. Et donc, c'est la dernière architecture CPU la plus récente qui existe sur le marché. Parce, avant, la plus récente, c'était les PowerPC.
Okay.
Du moins, ou Power. Donc, qui date quand même des années 90.
Ah, tu mets tout dedans, parce que tu as les dernières générations de PowerPC, là, les 9.
Ouais, oui, non, mais les Power, c'est du RISC. Ouais. ARM, c'est du RISC. MIPS, qu'on ne connaît plus trop, c'est du RISC aussi.
Oui.
Les CPU DEC Alpha, qui ont fait fantasmer beaucoup dans les années 90, c'est du RISC aussi. Et donc là... RISC-V est vraiment la dernière architecture sur une logique RISC, donc qui est plus pensée de façon moderne. Elle est prévue en architecture 32 bits, 64 bits. Sur le SoC en question, c'est du 64 bits. Et elle est aussi prévue pour le 128 bits.
Ouais, okay.
Ce qui...
Et c'est dans le M1 qu'il y a du RISC aussi ?
Dans le
M1 d'Apple, enfin la gamme de puces M.
C'est de l'ARM. C'est de l'ARM.
Mais c'est pas un ARM qui est client d'un core RISC, je crois que c'est une histoire comme ça.
C'est comme pour Nvidia. En fait, le RISC est très bon pour coordonner différents cœurs. Du coup, ton CPU dans le M1, c'est un ARM. Mais le lien entre ce CPU-là et les autres cœurs dédiés.
Et les cœurs graphiques et neuraux, etc.
Exactement.
En fait, c'est un RISC.
Il est piloté par un RISC.
Par un RISC-V.
Et alors,
c'est une archi RISC, mais c'est pas du RISC-V.
Mais je sais qu'Nvidia gère son architecture de GPU, qui elle tourne sur du GPU Nvidia classique, mais avec du RISC-V pour coordonner sur différents autres petits cœurs dédiés.
Et RISC-V aussi a une autre particularité qui est très importante vis-à-vis de la concurrence, oui. C'est que c'est open source. Ça a été fait à Berkeley avec la guerre qui est actuellement, la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Ils se sont déplacés il y a quelques années en Suisse pour ne pas être soumis aux embargos américains. Donc, ce qui est relativement important. N'importe qui peut faire un processeur RISC-V. Il n'y a aucune licence à faire. Alors qu'en ARM, on achète une licence. Soit une licence pour concevoir un processeur compatible ARM, ce que fait Apple avec ses sockets M1 et M2, ou même Samsung ou Qualcomm. Mais là, RISC-V, c'est on prend les specs et on fait son design de CPU.
Ouais, en fait, t'as une base qui est open, sans droit de licence. Et ce qui fait que tu peux partir de ça, et après tu as des extensions,
oui.
à ce truc-là, et c'est modulaire, donc tu peux composer le CPU en fonction de l'usage. Et tu peux après avoir un écosystème d'IP qui vient...
Ça donne l'impression que ça se fait en Lego. Hein. En vrai, il faut faire les plans, designer, graver des bidules et tout. Genre, n'attendez pas demain matin un truc où tu sélectionnes les blocs IP, les mecs te le gravent et te le ship.
Est-ce qu'on peut quand même dire que si quelqu'un implémente un RISC-V dans Minecraft, on recrute?
Ça s'est peut-être déjà fait. Hein.
Oui, alors, t'es pas obligé de t'énerver aussi loin pour te faire recruter, parce qu'en vrai, il y a des gens qu'on cherche. Nous, on n'est pas Google, on vire pas les gens comme ça par.
Non, mais et bon, c'est un petit challenge.
Et donc là, le SOC, c'est la société américaine Star5. Donc, c'est un SOC propriétaire. C'est eux qui sont les plus avancés sur le design de puces RISC-V. Mais derrière, on a des sociétés comme MIPS Technologies qui fabriquaient à la base des processeurs aussi, qui ont réorienté une partie de leur activité sur la conception de design spécifique aux clients, aux besoins des clients pour cette architecture. En Chine, RISC-V est pris très au sérieux, surtout par Alibaba, qui conçoit des CPU pour des serveurs.
Clairement, en Chine, ils ont tous envie de se débarrasser des licences ARM et Intel. Et donc, clairement, ils sont à fond sur l'idée de RISC-V. Il y a plusieurs milliards par an de mis dans la R&D autour de ça en Chine. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à faire là-dessus. Là, par exemple, toi, la carte, tu l'as commandée. Bon, tu l'aimes bien, elle est jolie. C'est quoi tes premiers projets d'expérimentation dessus?
Donc mon premier projet d'expérimentation, donc ça va être installer un FreeBSD puisque ce sera le plus simple, parce qu'on a une image qui est directe utilisable.
Ok, donc FreeBSD out of the box, oui. Il tourne,
normalement il tourne.
Et donc par exemple pour faire du switching de paquets et t'en servir comme routage, tu peux faire du routage à 1 gigabit seconde sans problème.
Je pense un petit peu moins, je pense qu'on devrait plutôt taper dans les 950 à tout casser. Ouais. Ce qui est déjà largement suffisant.
Donc, en clair, pour tous ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, il faut aller suivre Nida sur Twitter, si vous voulez, les résultats des benches, parce que d'ici la sortie de l'épisode, les benches seront sorties, n'est-ce
pas ? Pas sûr, on verra. On verra. Et je vais tester ça. Donc, il y a le côté routage. Il va y avoir aussi le côté desktop, parce que, ça fera tourner Doom, c'est obligatoire, mais je ferai tourner Quake 3... J'ai envie de m'amuser à Quake 3, voir ce que donne un bureau en termes de réactivité. Parce que la puce a aussi une très grosse différence par rapport à la puce ARM du Raspberry 4. Là, je vais être peut-être un peu technique. C'est sur le traitement des données au sein du processeur. Le RISC-V traite les données dans l'ordre. Tout ce qui lui arrive, il traite dans l'ordre. Alors que sur les derniers processeurs ARM, on traite dans des ordres, ce qui permet d'augmenter la performance.
Et après, ça réconcilie. Oui.
Et ça sera le... Star5 prévoit un processeur out of order, donc dans le désordre, je pense pour cette année ou l'année prochaine. Donc ça bouge très 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 vite. Et je vais tester aussi Linux, je vais tester donc forcément KVM.
Ok. Parce
que si j'ai pris 8 gigas...
Pour faire de l'émulation, enfin de la virtualisation, quoi.
Si j'ai pris 8 gigas, c'est...
Est-ce qu'il y a des extensions de Virtu dans un RISC-V?
Ouais.
Oui.
Ah, ça je ne savais pas du tout.
Et
tu as aussi des capacités à virtualiser ton RISC.
Et y a, dans le kernel Linux, on a déjà le support KVM pour RISC-V. Et je sais que Xen, c'est aussi implémenté, ça évolue.
Okay.
Avec une boîte française. Vates qui fait XCPNG.
Ah oui, Vates bosse dessus, ok.
Ouais.
Vates qui, pour ceux qui ne savent pas, est un partenaire dans le projet Renaissance, dans lequel on est en train de porter nos capacités de des stacks de virtualisation et network sur les cartes Calray. L'architecture dont on vous a parlé il y a quelques épisodes à 80 cœurs répartis en clusters, etc. Et en fait, on bosse avec Vates là-dessus. Je, globalement, en boîte qui écrivent de la virtualisation en France, vous allez voir Vates et nous, quoi.
Un KVM et l'autre Xen.
Alors, on fait plus de KVM.
D'accord.
Enfin, on fait plus de KVM. On utilise encore KVM, mais le projet sur lequel on est actif aujourd'hui, c'est Cloud Hypervisor, dont on parle un peu plus loin.
Justement, j'avais posé la question sur Twitter. Donc,
on a deux stacks de virtu.
Donc, je vais être très attentif sur le sujet.
Et une pour le IA.
Et on est en train d'essayer de tout rationaliser vers Cloud Hypervisor. Donc, on tente le saut entre les deux. Et tu sais, on est au moment où, genre, t'as la nouvelle stack qui est bien plus shiny, bien plus cool, bien plus machin. Et puis, en fait, tu fais genre, il n'y a pas telle feature à la con.
C'est ça.
Genre, ah merde. Et genre, et pour mettre telle feature, et pourquoi? Ah, faut écrire le support d'un formaticier. Ah, il n'existe pas en Rust. Ah.
C'est pas un peu l'histoire de notre vie.
Ah. Genre... Non, après, j'ai Steven qui m'appelle, genre, bon, alors le plan est pas si mal, mais bon, tu connaîtrais pas un mec qui connaîtrait bien, tu vois, ce format-là, machin. Non, pourquoi? Il n'existe pas. Ah merde.
Venez du côté, l'autre côté de la barrière de comment on construit du cloud, c'est pas toujours tranquille.
Donc voilà, je pense qu'à terme, il y aura du RISC-V dans des offres cloud, et je pense que les offres serveurs à base d'ARM, ça va durer quelques temps et ça va être très vite remplacé. J'ai beaucoup d'espoir sur RISC-V. Peut-être que je mets l'architecture un peu trop haute, mais sachant que l'Europe s'y intéresse pour un supercalculateur, pour un CPU souverain, je me dis que ARM va être un petit peu en danger.
Ouais, ARM va bien.
Oui.
Bon, après, mais c'est long terme. Après, je te rejoins dans l'avenir de la plateforme. On a balayé un peu vite le côté chinois de l'histoire, mais il ne faut pas oublier pourquoi les Chinois veulent aussi sortir d'ARM. C'est qu'aujourd'hui, ils ne payent pas ARM. On a quand même un masque de CPU ARM chinois qui sont joliment fraudés. Sous le manteau, mais que ça les empêche aussi de faire certains deals sur la plateforme mondiale, notamment avec les US, parce qu'à un moment donné, les Américains disent c'est bien, mais du coup, quand est-ce que vous payez quoi? Et du coup, dans cette logique économique, les Chinois disent ok, mais du coup, il faut qu'on nettoie le truc. Et ils sont vraiment en train d'aller en avant. Mais quelque part, ils ont une vision de marché là-dessus, et à la fois la Chine qui investit. Dans la capacité de fondeur pour aller construire les CPU, et ils ont leur tête de proue là-dessus qui drive un peu le design des CPU, et notamment t'as Alibaba là, qui a fait un laptop RISC-V il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines.
Et il est en pré-vente, il est pas encore
qui est en pré-vente. Alors, ce qui me fait marrer, c'est que le truc est quoi, il est à 2000 balles je crois,
voire plus,
peut-être un peu plus, et tu vois les commentaires des gens qui sont là, genre, oh, c'est quand même vachement cher, le truc fait pas grand-chose. Mais mec, c'est pas pour toi, juste, c'est une tech preview, c'est une plateforme de dev.
Et bon. Ce laptop a été prévu justement pour les devs, pour prendre en main l'architecture.
Ouais, et alors du coup, comme environnement graphique, je te conseille Enlightenment, c'est très performant, même sur CPU, pure CPU, ça marchera très bien.
Ah, moi je suis LXQT.
Ah ouais, mais c'est pas du tout aussi joli que l'Enlightenment.
Bon, ça c'est un autre débat. Et donc c'est vrai que RISC-V, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent et qui est déjà présent dans notre vie informatique. Seagate et Western Digital ont leurs contrôleurs de disques qui sont en RISC-V. On a des Arduino qui contiennent du RISC-V. Donc, plus à ce que tu disais chez Nvidia, je sais qu'Nvidia travaille sur l'intégration du RISC-V aussi, dans leurs GPU.
Ouais, c'est un contrôleur pour eux. Et c'est en train de devenir un peu le truc sur le marché qui commence à faire foi, parce que déjà, ça les libère. Alors, déjà, Nvidia, ils ont voulu racheter ARM, ils n'ont pas eu le droit.
Ouais, c'est vrai.
Du coup, à mon avis, dans leur strat, ils vont faire ah! Du coup, on va vraiment aller dans le RISC-V. Hein.
Puis je pense que tout le monde s'engouffre du fait qu'il n'y a pas de royalty, on fait ce qu'on veut.
Alors, ça risque d'être un argument sur le marché qui, à l'échelle, peut être intéressant pour tout ce qui est architecture un peu commune. Tout ce qui est low cost, tout ce qui doit pas coûter très cher, etc. En fait, typiquement, hein, tu vois, aujourd'hui, un Raspberry Pi, c'est une base ARM. Vu le positionnement marché du Raspberry Pi, une fois que le RISC-V arrive à un niveau de perf et une intégration software qui sera suffisante, il n'y a aucun avenir à du Raspberry Pi ARM. ça n'a aucun sens en fait. Parce que c'est un coût de licence qui est qui t'apporte rien.
Et puis on a des constructeurs chinois ou américains ou taïwanais comme Marvel qui fabriquent aussi des sacs qui commencent à en sortir. Donc les prix vont défier la concurrence des sacs ARM sans aucun problème. Et moi j'ai beaucoup d'espoir, mais vraiment côté serveur.
Bah, côté serveur, t'as Ampere Computing là, qui développe des gammes de serveurs orientés ARM. Ils sont en train de s'énerver à faire un peu scaler le truc. Mais alors c'est encore balbutiant en termes de marché sur le RISC-V, mais c'est la suite logique. Hein. C'est qu'une fois que la plateforme a suffisamment d'attrait software et peut faire tourner suffisamment de choses, ça viendra.
L'écosystème risque basé autour de RISC-V, parce que c'est une techno que je suis depuis pas loin de 5 ans maintenant. On arrive sur des choses qui... On est au-delà de la bidouille maintenant. On est vraiment sur des produits accessibles. Parce que la carte, le soc sur la carte, il y a 2 ans, la carte coûtait 500 balles.
Ah oui, puis t'as des boîtes qui sont spécialisées, enfin Sci-Fi, ils font des CPU, c'est pas pour bidouiller, c'est clairement...
Non, et puis il y a Intel derrière, je crois, dans l'investissement. Ah bah. Et les socs seront...
On peut mettre une petite crotte de nez sur ARM. Hein,
et si j'ai bonne mémoire, si je me trompe pas, il y a un accord de fonderie pour les socs de Sci-Fi sur les fonderies d'Intel. Donc les fonderies fabrication de CPU. Et donc on verra bien ce que le temps nous dira, mais bon voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir.
Comme on dit assez souvent dans ce podcast, le moment où le marché du semi-conducteur était pas drôle et sans intérêt est passé. Et du coup, ça y est, c'est de nouveau drôle, il se passe des choses, et c'est quand même très cool. Et comme vous le voyez,
ça, c'était drôle.
Ça c'est quoi ?
Alors, c'est quoi ?
Ça, c'est un processeur à base de RISC. C'est un processeur de mainframe. C'est basé sur du Power7.
Trop bien.
Oh, c'est collector.
C'est quand même complètement collector.
Oui.
Alors, on en trouve assez facile. Si vous voyez la taille qu'il fait, mais...
Ouais, c'est un peu plus gros.
Enfin, autant les nouveaux gros CPU, les EPIC et tout, sont quand même assez massifs, mais là, on est encore... ouais. Puis en épaisseur.
Ah, c'est... là, on n'est pas sur du plastique, on est sur...
On est sur 1 ou 2 cm d'épaisseur et...
c'est de la céramique.
C'est de la céramique.
15 cm de longueur.
Et après, le système de refroidissement, je pourrais éventuellement mettre un lien sur une vidéo d'un Allemand qui avait expliqué comment ça fonctionnait. Parce qu'il y a des... il y a des systèmes à base de picots, du moins le contact se fait avec une partie métallique sur ressort, et là où est le ressort, c'est de l'hélium. C'est un bazar pas possible, mais c'est super intéressant.
Ok, c'est
lourd
en plus.
Et je pense qu'on arrivera à des situations, des processeurs qui rêvent dans ce style-là. Peut-être comme dans les mainframes.
Et du coup, ce que tu disais, c'est que sur la board, là, la performance du RISC-V, elle commence quand même à aller chatouiller les Raspberry 4. Mm. Ce qui est quand même... ça commence à être sympa, quoi.
Bon, on est sur de... au niveau de l'ARM, je vais parler au niveau de version d'architecture d'ARM. Actuellement, on est sur l'architecture V8, donc qui correspond au Cortex haut de gamme A55, si je ne me trompe pas. Et là, on commence à voir arriver les premiers SoC ARM en version V9. Donc, c'est les A72 ou A75. J'ai un petit doute parce que leur nomenclature est un petit peu chaotique. Et quand le... Quand Sci-Fi aura fait son SOC à base de out of order, de traitement des données dans le désordre, et avec de la prédiction de branchement, on dépassera ARM sans aucun problème. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de prédiction de branchement sur, sur les puces qu'on trouve sur le marché.
Sachant qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui déconne en sécurité dans les processeurs, c'est la prédiction de Morse.
Spectre V2, V1.
Toutes les dernières failles dont vous avez entendu parler dans les CPU, c'est la prédiction de branche à chaque fois qu'ils vous mettent dedans.
On gagne de la perf, mais on perd de la sécu. Quoi.
Parce que la prédiction de branche, en fait, te permet d'inférer ce que tu pourrais trouver dans les branches à côté. Et en fait, c'est toujours ça qui pose problème dans ce genre de truc. Après, il y a un moment, enfin...
Ah, par contre, la prédiction de branchement, on arrive sur des résultats à 90%, voire 95% de réussite. C'est pas négligeable.
Ah bah oui, d'ailleurs, c'est pour ça que ça te permet d'inférer ce qu'il y a à côté, et du coup, d'aller taper la data, genre... la clé de chiffrement dans le registre d'à côté, oui, clairement.
Mais pour les gens qui nous écoutent, le out of order, pour expliquer très simplement, c'est qu'en fait, quand on exécute quelque chose sur un CPU, il y a des instructions qui viennent exécuter ce qu'il y a dans le pipe qui arrive. Mais en fait, en fonction de ce qu'on a exécuté, bah, les instructions, elles ont des cycles pour venir consommer ces jeux de données. À exécuter, et en fait elles font pas toutes la même taille, enfin les choses à exécuter font pas toutes la même taille. Typiquement, si on fait une petite opération par exemple, 1+1, ben ça va faire 11, on sait.
Non, ça fait 3 comme dit Jean-Claude Van Damme.
Ah, c'est 3, hein. Mais du coup, en fait, 1+1, ben, ça va pas être très complexe en fait à pipeliner dans le CPU, et donc il reste de la place pour faire d'autres choses. Et le but d'un out of order, c'est de venir dire, bah en fait, je vais utiliser cette place vide dans mon cycle CPU pour utiliser d'autres instructions à ce moment-là pour faire d'autres choses et du coup consommer ça un peu dans le désordre, mais pour maximiser en fait l'usage de mes cycles CPU. Je sais pas si je suis tout à fait exact dans l'explication du truc, mais c'est un peu globalement l'idée.
Parce que en fait, il va peut-être faire des instructions, il va peut-être exécuter des instructions qui dépendent d'un résultat qui n'a pas encore été calculé.
Donc ça, c'est la prédiction, oui.
Ouais, enfin, c'est aussi le out of order qui, oui, les deux sont assez liés, je pense. Et du coup, bah, soit ils se trompent, effectivement, et là, ça coûte cher, entre guillemets, mais comme ils se trompent assez peu, c'est du BDF. Quoi.
Bah, sinon, on peut comparer que le clic de la souris est traité en même temps que la décompression de ton MP3.
Oui, effectivement, ouais.
Alors qu'avant, c'était chacun son tour.
Ouais, ce qui était moins bon en perf, quoi.
Voilà.
Ok.
Puisqu'on parle de performance, on a quand même un petit sujet là sur le Linux 6.2 récent.
Alors, il n'est pas encore sorti. Hein.
Avant, juste, il faut qu'on se dise un léger truc avant. Oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode spécial kernel. Oui, je vais finir par réassembler une team et je pense qu'on fera genre un double épisode spécial kernel, un truc.
Je pense qu'il faut faire un triple parce qu'il y a kernel, il y avait la glibc, il y avait je sais plus quoi d'autre, GCC.
Ouais, bon, on va vous faire un beau gros épisode genre low level de la mort qui tue. On pourrait peut-être rappeler Marco pour l'opération, tu vois, un truc.
Marco, Saruspet, Erwan Velu, tous les gens un peu.
Ouais, on va pas se mettre à 600 parce que là sinon c'est plus. Enfin, genre, on peut lancer un sideline podcast, quoi. Enfin, on va jamais s'en sortir.
C'est un meet-up là, ce niveau-là.
Ou si vous voulez venir participer sur certains sujets particuliers, n'hésitez pas à nous ping un peu en DM. Il y a des choses que vous voulez partager sur des thématiques particulières. Vous serez les bienvenus. Et du coup, sur ce sujet-là, c'était toi, Arnaud, ou...
oh non, c'était moi. Le futur kernel 6.2, on va avoir une amélioration des performances liées à la prise en charge de la nouvelle architecture d'AMD Zen 4, donc qu'on trouve dans les Epic série 9000 et dans les Ryzen série 7000. Et c'est une. Donc ça va améliorer justement ce qu'on parlait tout à l'heure. Le fait d'avoir les failles de sécurité sur la prédiction de branchement de Spectre V2. Ce que AMD a implémenté dans son architecture Zen 4 et qui va être pris en compte dans le kernel Linux va permettre de retrouver des performances beaucoup plus importantes au niveau des CPU, des nouveaux CPU AMD.
Ouais, je sais pas si c'était grâce à ces patchs-là, mais j'avais vu des benchmarks à un moment qui montraient que globalement, quand vous désactiviez les sécurités sur le CPU en question, en fait, vous aviez des performances moins bonnes que quand elles étaient activées. C'était ce qui était assez surprenant dans un certain sens, mais en fait, les CPU commencent à optimiser, entre guillemets, les patchs de sécu qui sont sortis, et surtout, peut-être juste à mieux gérer les cas, quoi. Donc, parfois, c'est plus intéressant de le laisser activer si vous voulez plus de perfs sur du matos qui est très récent.
C'est tu veux dire que tu arrives à utiliser les perfs que tu as payés ?
C'est dingue, hein ? Attends, ouais. Jusqu'à la prochaine faille...
Attention, chez Intel, bientôt, il faudra payer les options d'utilisation dans le CPU.
Oui, bon, ça fait longtemps
que c'est sorti. Non. Ils ont tenté le coup, ça n'a jamais marché.
Ouais.
Ils reparlent de le refaire.
Ouais, non, mais c'est logique. Enfin, t'as nécessairement un exec quelconque dans ce genre de boîte qui débarque, tu vois, un jour en disant hey, les gars, j'ai une super idée, machin.
Alors, si il y a un mec au marketing, il a dit la souscription, c'est vachement bien.
On va faire comme
on va louer les CPU.
si vous le saviez pas, en fait, effectivement, vous avez moyen de débloquer certaines features du processeur, alors pour des cas d'usage très précis.
Non, alors ils l'ont fait avec certains cloud providers.
Oui.
Ils ont tenté de le vendre. Personne n'a jamais acheté cette merde.
Ils l'ont fait aussi en consumer il y a très longtemps, je crois, non. Pour les particuliers.
Non, parce qu'ils te font un serveur de licence à la con au milieu du truc, bidule, qui se démarre que au boot du système, tu sais, des systèmes de control management, tu sais, soit les ILO, les IDRAC et compagnie, tu vois, genre machin, qui va du coup te flasher le CPU au boot du machin, tout ça, enfin non.
Non, mais du coup, c'est quelque chose qui existe. Moi, je l'ai appris il y a genre 6 mois.
Non, ils ont essayé de nous le vendre une fois. Il y a un deal où les mecs ont essayé de m'expliquer le truc et tout en me disant tu comprends, et comme ça, vous pouvez débloquer des gigahertz supplémentaires de vos processeurs déjà installés. Machin. J'étais là, genre non, en fait, tu vas juste nous faire un prix sur les processeurs et ça ira très bien, tu vois.
Puis en plus, les fonctionnalités avec le microcode qui se met à jour, ils peuvent modifier à tout moment les fonctionnalités des CPU, que ce soit Intel, AMD, ARM.
Ils sont
tous pareils. Et pour revenir à cette évolution du kernel, donc Intel aura quelque chose d'assez équivalent dans ses futurs Xeon. Et on devrait voir arriver ça assez rapidement. Pour le moment, c'est juste le début de l'intégration de de la technologie d'AMD. Donc j'ai perdu complètement le nom, je vais la retrouver. Est-ce que c'est toujours des noms à la Mormoneux?
Je sais pas, c'est une instruction base sampling.
C'est le PPR.
Ah oui.
Donc voilà, le processeur programming référence. Le truc, tu sais même pas ce que ça veut dire.
Encore un acronyme en tout cas à retenir dans votre glossaire des acronymes.
Voilà, donc pour l'instant, on peut pas utiliser à 100% les processeurs basés sur Zen 4, mais ça ne serait tardé. C'est le cas pareil sur Microsoft, personne ne peut supporter un CPU qui vient de sortir dans l'OS. Ce serait irréaliste.
Et encore, ça s'améliore des fois. Enfin, c'est quand même dans l'intérêt aussi de tous les fabricants de CPU de pouvoir avoir un support quand même assez rapide pour ne pas retarder les ventes de leur CPU. Donc généralement c'est comme ça qu'on voit aussi les plateformes qui arrivent parce que elles sont comitées quelques kernels avant.
Je crois qu'il y a quelques jours ou semaines, effectivement Intel a fait des commits, je ne sais plus dans quel projet, mais peut-être dans Binutils ou un truc comme ça, avec le nom de leur futur produit, enfin de leur futur CPU.
Ouais, exactement.
Bah dans le kernel Linux, c'est une bible, hein, parce que tu as les CPU, tu as les GPU, tu as les puces réseau, tu peux trouver plein de choses quand tu fouilles. Par contre, il faut savoir où fouiller.
Oui, mais ce serait quand même d'une énorme tristesse de devoir payer du CPU à la licence ou d'activer des fonctionnalités quand tu as déjà payé la plateforme et que c'est déjà là. Et puisqu'on parle de tristesse, je propose une minute.
Il nous fait des transitions ce soir, Stéphane. Je sais pas si c'est l'apéro ou sa maladie totale, hein, si vous ne l'aviez pas entendu au son, Stéphane a passé la semaine à se plaindre du fait qu'il avait la crève.
C'est compliqué.
Et pourtant, on s'est vu dans peut-être 3 villes différentes cette semaine.
Ouais, mais on était malades ensemble. Hein.
Aucune desquelles dans lesquelles on vit d'ailleurs, c'est ça qui est beau au final.
C'est pas faux.
Ça ne nous regarde pas.
Oh, attends, et pour une fois, il n'y a pas eu une couille improbable où ça finit par « et donc du coup on finira dans le même canapé, Stéphane et moi », tu vois, genre, on n'a même pas dormi ensemble cette semaine.
Et des fois on dort dans le même sens.
C'est ça. Pour ceux qui l'auraient loupé, les postes de direction chez Clever sont des postes assez intenses à vivre.
On est très investis. non, mais on célèbre un drame aussi, là.
Oui, la fin d'une époque.
La fin d'une époque. Ceux qui, comme moi, ont commencé à installer leur Linux où il fallait tout compiler. Et quand tu voulais un support graphique, on te disait « Bah tiens, le TarGZ du driver est là-bas, démerde-toi. » Et tu allais compiler ton petit driver i810.
C'est toujours le cas.
Du chip graphique d'Intel, machin.
Oui, mais tu sais, t'avais un bout du driver en open, un bout du driver en pas open, oui, et t'avais toujours un moment où ça couillait complètement entre les deux, et là, après, tu te finissais, tu sais, toujours dans Xorg, dans la conf de Xorg, à essayer de faire de la magie noire, ouais. Et en vrai, le machin couillait en masse.
Et quand t'en avais un setup entre ton driver, ton firmware, ta conf Xorg qui marchait, ouf, t'avais tendance beaucoup à pas trop la toucher.
Quand même, et là, tu te disais... Vas-y, je vais faire du multi-screen, tu lançais Xinerama et tu refoutais tout par terre.
Et du coup, en fait, le sujet, c'est qu'on a du nettoyage.
Et heureusement qu'il y a du nettoyage, parce que je pense que plus personne n'utilise une bonne vieille AT-Rage 128 des années 90, début 2000.
Ah oui, c'est si vieux que ça.
Bah, oui. Je sais pas, en vrai.
Bah, après, il y a le support
peut-être
de
Mac. Shadow.
Sinon, c'est dans le kernel 6.3, donc ils vont dégager le support du i810, donc driver graphique d'Intel, qui date vraiment de Mathusalem. Ils vont dégager les drivers de chez Matrox Graphics, donc pour ceux qui se souviennent, ce nom-là doit revenir d'outre-tombe.
Bon, on est quand même sur des sujets d'il y a 20 ans.
3DX aussi dégage.
On parle aussi d'une époque où les cartes graphiques, c'était un autre sport. Mmh. Parce que moi, je me souviens, j'en ai discuté avec les patrons de Guillemot Corp à l'époque. Donc Guillemot Corp, c'est les frères Guillemot, ceux qui ont créé Ubisoft et Gameloft.
Hercule, la marque.
Et Hercule. Bah, en fait, Hercule était une marque de Guillemot Corp. Mais en fait, les frères Guillemot, qui sont des Bretons, qui ont donc fait aussi Gameloft et Ubisoft, et quelques autres boîtes, en fait, à l'époque, ils avaient donc Hercule. Hercule, qui était très connu dans le milieu pour avoir fait la première carte son de Home Studio avec 6 entrées, 6 sorties, qui était un truc de dingue, mais de dingue au début des années 2000, qui était assez accessible financièrement. Enfin, c'était pas très cher, ce truc.
Et elle tournait sur BIOS aussi.
Ouais, elle tournait sous BIOS. Et en fait, eux, à l'époque, ils faisaient des cartes graphiques. Et je me souviens en avoir discuté avec eux, à la grande époque, il y avait un chipset graphique qui sortait chez un constructeur. Le chipset sortait. Il faisait la carte, les drivers, la prod, le cartonnage, enfin la mise en paquet, entre la sortie du chipset graphique et le en rayon chez Leclerc, 4 semaines.
C'est bourrin.
Ultra bourrin. Et en fait, les mecs étaient tellement bons. Et en fait, ils ont fini par se faire doubler parce que les gros faiseurs asiatiques ont fini par négocier des exclus de 2 semaines. Et donc, du coup, bah, ils ont fini par se faire étaler. Mais en fait, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait plein de constructeurs de cartes graphiques. Bah, mais il y en avait des chiés, mais vraiment des chiés, quoi.
3DFX Voodoo,
les et en fait, tout le monde intégrait plus ou moins les mêmes chipsets graphiques, sauf qu'en fait, à chaque fois, c'était des drivers. Plus ou moins open, plus ou moins machin, un merdier, mais apocalyptique. Et en fait, c'était un marché en soi. Et là, ça s'est vachement rationalisé. En fait, soit t'achètes de la TI, soit t'achètes du Nvidia, soit t'achètes du Intel, barre, tu vois. Soit t'es tout chez Apple, et Apple fait tout seul, tu vois.
Et on a le même problème que sur les CPU. Les années 90-2000, c'était une époque faste où tout le monde a tenté sa chance. Bon, beaucoup ont perdu. Mais qui ont permis d'apporter énormément aussi à la micro-informatique de nos jours.
Et rappelez-vous, à la grande époque, cette époque-là, c'est aussi l'époque où il y avait la Dreamcast qui sortait avec un CPU complètement alien en 128 bits, machin, et où la première fois que tu lisais le SDK pour coder un machin, tu étais là genre, bah non, genre jamais de la vie, mec, enfin, genre, ça va jamais se produire, tu vois.
Bon,
c'était imbitable.
J'ai ramené une Dreamcast, un de ces quatre, alors.
Ah bah ouais, non, mais c'était un processeur.
Ah oui.
C'était un processeur incroyable. Et c'était une machine incroyable. C'est juste qu'en fait, pour coder un jeu dessus, c'était l'enlise. Et moi, je me souviens, parce que le début de ma carrière, moi, c'était du jeu vidéo. Et quand tu parlais avec des constructeurs comme Sony à cette époque-là, en fait, on te donnait vaguement du bout des doigts un SDK que tu payais une fortune de dev. La doc, elle était répartie entre 3 sites, 2 en anglais, 1 en japonais. Et t'avais l'insigne honneur de coder pour la putain de PlayStation. Mais en fait, en vrai, c'était mais démerde-toi, tu vois. Genre, les mecs en avaient mais rien à foutre, que tu comprennes rien. Rien à voir avec l'ambiance d'Evrel aujourd'hui, où on t'envoie des gens pour te dire, genre, oui, on va t'expliquer comment ça marche, parce qu'il faut qu'en tant que développeur, tu puisses facilement t'intégrer, tout ça. Parce que Stripe, tu vas pouvoir t'intégrer nos codes. Non, là, vraiment, c'était, tu veux coder pour les machines Sony ? Faut que tu sois un vrai, sinon tu peux les faire foutre.
Et des bourses à 10 000 dollars.
Et des bourses à 10 000 dollars, genre front off, tu vois. Genre, voilà. Sans compter Nintendo, ou Nintendo, genre, t'es pas japonais ? Non. Non.
Alors, oui, mais voilà la doc, en japonais.
Mais non, mais la trad, bah, tu payes des trad, gros, c'est pas nous que ça regarde. Hein.
Là, c'est des routes, quoi.
Ah mais c'était incroyable comme époque, et donc la micro, électronique et micro informatique à cette époque-là, mais c'était vraiment mythique comment.
Pour revenir sur la Dreamcast, pour éviter le piratage, ils avaient sorti un format propriétaire du CD qui s'appelait le Gigarom, parce qu'un CD c'est 700 mégas et eux ils avaient fait un CD qui faisait 1 giga,
okay.
Ce qui physiquement déjà empêchait le piratage.
C'était pas la même taille de trou, quoi.
Ouais. Oui. Ok.
Et c'était la première console aussi à être... non, deuxième, parce que la Saturn, on pouvait mettre un modem, mais la première d'origine à avoir un modem intégré pour aller sur Internet.
Mais elle a eu son petit succès, quand même.
Oui. Bah après, moi, je suis fan de cette console, donc je...
Tu la connais par cœur.
Oui, parce que j'en ai... Je travaillais dans une boutique de jeux vidéo à une époque, et j'en ai pucé un paquet.
Ok. Bon, il y a... Il y a prescription.
Ouais. Oui.
Bon, on a dérivé là. Hein.
Oui, donc pour revenir dans le ménage du kernel, donc au revoir les vieux drivers de chez Intel, les vieux drivers de chez Matrox qui ont fait le succès de beaucoup de gamers, la T-Rage 128 qui a fait aussi beaucoup de bien à certains gamers, les puces de chez Via S3 qui rappelleront peut-être des souvenirs ou des malheurs. Driver complètement foireux.
Bah, via, tout court.
Tout via. Hein.
C'est plus via, en vrai.
Les drivers de SIS aussi.
J'ai encore une Daddy Box chez moi avec le Via C5. Tu sais, les Daddy Box.
Ah, lui, il a installé, regardez le 6.3.
Les Daddy Box qu'il y avait chez Daddy Box. En fait, je récupère une Daddy Box, je ne dis pas comment. Mais du coup, j'avais une vraie Daddy Box.
Je suis un texto à Arnaud pour chez moi.
Ah, il est au courant. Hein. Il est bien au courant de comment je l'ai eu. Hein. C'est lui qui me l'a donné. Mais du coup, ouais, nettoyage des DRM. Du coup, tu sais, on disait souvent, les vieilles machines, tu peux toujours les recycler avec Linux, tout ça. Et quand même, du coup, une petite fin à ça, quoi. Ouais. Ah, tu pourras, mais...
Non, mais il y a un moment, faut quand même faire le ménage, tu vois. Enfin, balader des branches de code dégueulasses forever... Après, les gens compilent le support dessus parce qu'ils savent pas trop quoi cliquer quand ils font une putain de compile. Comme c'est une putain de branche dont personne se sert jamais, en fait, il y a des failles dedans qui vieillissent. Et en fait, tu te retrouves avec des failles de sécurité dégueulasses pour un truc qui, en fait, factuellement, ne devrait pas exister.
Donc, tu veux dire que les drivers bien, pour 3DFX, ils sont encore supportés sur GCP ? C'est ça que tu... Non, quand même pas, il ferait pas ça.
Moi, je dirais pas troller ce genre de truc. Après, dire que les mecs cochent n'importe quoi dans les compiles du kernel, ce serait pas mon style. Moi, c'est pas le genre de truc que je dirais.
Après, tu vois, vu l'âge de driver, il y a probablement aucun couplage avec le reste, tu vois, du système. Bon, ils sont
non, si,
les,
non.
Les BMC.
C'est...
Les puces BMC, tu trouvais à une époque du S3 et du Matrox.
Ouais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si jamais, tu vois, tu veux
être... Ah non, non, dans le code, si t'as du driver, parce qu'en général, c'est pas la même... En fait, c'est pas la même génération aussi de style de code. Et donc, des fois, tu sais, genre, tu peux aller écrire comme un cochon dans le buffer et en fait, tu vas écrire dans le buffer d'à côté, machin. Donc, des fois, tu sais, le vieux code, c'est bien de le laisser dans son musée, tu vois. Oui, moi, je suis assez favorable au fait de buter les trucs qui n'ont plus de raison d'être, tu vois.
Le lecteur de disquette, pourquoi garder ce...
T'as un peu soleil vers ma proposition, là, quoi.
Le lecteur de disquette, à quoi ça sert de... Ouais. C'est peut-être à cause des Japonais, l'administration japonaise qui utilise encore des disquettes, mais aucun intérêt de...
Il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé dans je ne sais plus quel genre de game où il y avait encore des disquettes de paramétrage. T'installais un soft, et en fait, la licence et le paramétrage étaient sur une disquette 3 pouces et demi, et je me suis retrouvé dans un truc cabalistique à essayer de faire tourner un disque dur, un lecteur de disquette 3 pouces et demi sur du matos récent. Non, ça existe encore.
Ouais, mais oui.
Tu sais, il y a des gens, ils n'ont pas encore compris qu'on était en 2020 quelque chose, hein, tu vois.
Après que l'armée américaine, c'était des floppy 8 pouces qu'ils avaient. D'ailleurs, je peux vous en ramener une si jamais ça vous intéresse.
Donc là, on est en train de rentrer dans le petit musée de Nida. Et tant qu'on est dans le petit musée et qu'on parle des grands bonheurs en tant que développeur à une époque, ça y est, bon, c'était déjà bien, bien mal mis. Hein, mais Twitter est en train de mettre les dernières balles dans les clients tiers sur Twitter. Nida, c'est un de tes liens. Est-ce que tu veux nous faire l'article ?
Bah, en gros, c'est simple. Twitter a décidé de couper l'API. Donc, tous ceux qui se basaient sur l'API pour des navigateurs tiers à Twitter, bah, ils l'ont profond. Pour aller vite.
On n'a pas un disclaimer ou autre sur ce sujet ?
Non. Alors, on ne fait pas de blagues de mauvais goût. Ils l'ont profond. Ça veut dire qu'en clair, ils sont obligés d'aller beaucoup plus profondément dans l'API.
Exactement.
Voilà.
Non, ils ont apparemment aucune...
profond dans la négociation.
Non, mais en fait, de toute façon, non, a priori, ils ont coupé les négociations. De toute façon, c'était quand même parti en live à partir du moment où ils avaient commencé à mettre en avant les tweets publicitaires parce qu'il fallait un accord avec eux et que tu vérifies qu'en fait, tu n'altérais pas le flux de tweets parce que l'idée était de dire, genre, tu vas pas lancer un compte, un client Twitter qui va virer les pubs par rapport au fait que c'est le modèle éco de Twitter. Mais là, a priori, ils ont mis les dernières balles là-dedans. Moi, ça, pour être tout à fait sincère, la news m'a quand même chagriné parce que je me souviens vraiment de Twitter, la grande époque quand ça s'est lancé. En fait, Twitter, c'est un peu la plateforme qui a lancé les API pour tout le monde. C'est-à-dire que c'était la plateforme qui était la plus simple à exploiter en tant qu'API et c'était vraiment... Tout le monde a découvert le concept en faisant ça. Ça a été d'une créativité. C'était un sandbox, une créativité. Enfin, moi, j'ai tellement kiffé Twitter au début, quoi. C'était incroyable l'ambiance qu'il y avait là-dessus. Et en tant que développeur, mais vraiment, c'était la folie. C'est eux qui ont lancé l'utilisation massive de conneries comme JSONP. Je ne sais pas si vous vous souvenez de JSONP, l'espèce de hack dégueulasse où t'incluais un script, une balise de script JavaScript quand t'avais pas Ajax sous la main en cross-request pour aller charger de la data, machin. C'est vraiment eux qui ont poussé au début les API. Et je me souviens qu'au début, Twitter était une sorte de lingua franca du web où tout le monde rentrait dedans et s'en servait pour faire son authentification, sa command line, c'était vraiment génial au démarrage. Et là, c'est vraiment le moment où, tu sais, les gens qui font le pognon ont débarqué et ont foutu tellement la merde que ce truc-là qui était vraiment drôle, en fait, est plus drôle du tout. Et c'est un peu le dernier clou dans ce cercueil-là. Et ouais, moi, ça me tire une petite larme parce que je me suis souvenu du premier Startup Weekend de Nantes où nous avions monté avec Guillaume Champeau, qui des années plus tard a fini par bosser chez Clever, avec Olivier Ezrati, avec tous ces gens-là. On avait monté une fausse startup qui s'appelait TwitoWeb, qui a fini dans TechCrunch, mais une histoire mais complètement bordélique, où à la fin, il y a Loïc Lemeur qui nous a filé un coup de tel parce qu'on s'était foutu de sa gueule dans le pitch. Non, c'est vraiment, il y a eu des grands, grands moments sur Twitter. Et ouais, ça me rappelle à chaque fois que des fois l'univers est moins drôle. Oui, tu passes ta vie sur batterie, à un moment t'as plus de batterie, Steven, je vois pas ce qui est choquant. Hein, mais voilà. Je sais pas si vous avez à réagir sur ce truc-là ou...
Moi, j'utilise pas d'application tierce, donc j'avoue que...
Moi, je pense que tous ceux qui font
du cross-posting
entre Mastodon et Twitter, eux, ça va vraiment les embêter.
Ah non, en fait, c'est uniquement la consultation, ils continuent à te laisser poster.
Ah oui, d'accord.
Non, parce que des business comme Buffer, Hootsuite et compagnie continuent à bien se porter, et voilà.
Mais...
Après, Musk détestant l'idée des bots... il n'est pas impossible qu'à un moment donné ils finissent par nous dire non mais c'est client Twitter uniquement et il n'y aura plus d'API et allez vous faire cure.
Moi je l'ai compris comme ça.
Ça commence comme ça, après c'est possible que ça aille
j'ai peut-être été trop vite.
Ah mais clairement je comprends beaucoup Musk comme étant quelqu'un qui a envie de virer l'automatisation au-dessus de Twitter. Moi c'est vraiment comme ça que je le perçois dans dans sa vision de Twitter et dans ce que c'est censé faire. On se fait un dernier petit lien pour l'opération, c'est un tools, ça s'appelle ELK, et ça me paraît très... Vas-y.
Ouais, on enchaîne sur un client web, en fait, pour Mastodon. Alors du coup, concurrent direct, entre guillemets, de Twitter, même si ces dernières semaines, il y a pas mal de gens qui ont arrêté d'utiliser la plateforme. mais du coup, c'est un client web, en fait, que je trouve plutôt assez agréable à utiliser, qui reprend certains codes de Twitter et qui en invente d'autres. Alors, je suis pas spécialement très bon en capacité de juger tout ce qui est UI et UX, mais moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme soft pour remplacer le jeu que j'utilisais sur l'application web pour Mastodon. Je sais plus trop ce que j'avais. Mais voilà, c'était... C'est un petit projet qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps, peut-être 2-3 semaines, qui va assez vite et qui a l'air de... Bon, pour l'instant, d'exister. On verra s'il continue, quoi.
Et du coup...
Ça s'appelle ELK.
Et du coup, moi, ce que je pense, c'est qu'il est peut-être temps qu'on pense à mettre une musique de l'épisode et qu'on vous dise à la semaine prochaine pour la continuation de ce double épisode. Musique qui a été choisie aujourd'hui par Nida... Je vous préviens, le lien YouTube dit quand même, c'est pas approprié pour tout le monde. Hein.
Non, c'est très bien.
Eh, mais je suis carrément pour moi. Attends, je Shazam le bidule. Oui, mais là, tu sais, je suis un méchant utilisateur d'Apple Music.
Ouais.
Tu veux nous en parler ou pas?
Le groupe là?
Ouais.
Je l'adore. Il est en concert il y a 6 mois, non?
Ok.
C'est. Je les ai découverts en première partie de Rammstein. Donc on est sur un style, bon, électro-rock.
Non, musique de chambre.
Aquator.
Ok. Je cherche un style de danse associé.
Et c'est. On peut considérer ça. Là, c'est un morceau qui est très rock, très. Et c'est. C'est considéré comme de l'agro-tech. Ouais. Okay. C'est quand tu rentres dans les musiques, quelque type en disco.
Ok.
Et sur, en live, ça déchire.
Ouais. Ouais.
Eh ben écoute, moi je suis assez motivé dessus. Donc du coup, rapidement, où est-ce qu'on peut vous retrouver tous, messieurs, dames? Arnaud
Twitter, BlackCube.
At BlackCube.
Voilà.
Nidouille at Nida at Nidouille voilà sur Twitter.
Nida at Nidouille.
Twitter at Gwynisdu.
Voilà.
On a des trucs à prononcer. Bon.
Non, moi c'est très simple. WAXZCE. Je sais pas où est-ce qu'il y a le problème. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque là. La suite de l'épisode la semaine prochaine. On vous aime tous. Bisous et à très bientôt.
Mon compte triple.